Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiac, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Encore une fois, bien le bonjour à vous toutes et à vous tous. Un excellent dimanche avec RMC, puis un bon réveil. Merci d'être là, le week-end des experts, les animaux, avec Laetitia Barlerin. Au menu de cette deuxième partie, tout à l'heure, Laetitia, Julie Ferrier, la comédienne qu'on peut retrouver au Théâtre de la Madeleine à Paris, en ce moment jusqu'au 29 avril, sera avec nous au téléphone. Elle va nous parler de l'interaction qu'elle a avec sa chienne sur scène.
Et oui, parce que sa chienne vient sur scène, justement. Mmh.
Eh bien, on en parlera tout à l'heure, elle sera avec nous, Julie Ferrier. On découvrira aussi, et on essaiera de comprendre pourquoi cette série, La Saison aux Zoos, qui diffusait sur France 4, cartonne autant, puisqu'on attaque la 7e saison. On va parler aussi des grenouilles, mais attention, les cuisses de grenouilles.
Les cuisses de grenouilles. D'où viennent les cuisses de grenouilles que vous mangez?
Alors que moi, je ne mange pas.
Mais ah,
que
bah voilà.
Certains de nos auditeurs, sans doute,
oui,
doivent se délecter.
Les Français sont les premiers consommateurs en Europe, quand
c'est
même.
C'est dingue, ça.
Eh
hein,
ben
bah
oui.
Ça sera dans quelques instants, mais dans l'immédiat, Laetitia, un sujet un petit peu moins sexy, mais malgré tout très intéressant. Il faut faire attention aux tiques.
Les tiques y attaquent.
Les tiques attaquent.
Eh ben oui, tiques attaquent, surtout au printemps. C'est en ce moment et on en voit partout. Et nous sommes avec le professeur Jacques Guillot, qui est responsable de l'unité de parasitologie, mycologie et dermatologie à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Jacques, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai que qui dit bonjour dit bêtes qui pullulent, dont les tiques sont peut-être les plus dangereuses. Alors, ce sont des acariens, des gros acariens vampires, hein, comme on les dit, comme on dit, puisqu'ils se nourrissent de sang. Alors, où les trouve-t-on en France et quels sont les animaux qu'elles prennent pour cible?
Alors, en fait, on en trouve partout en France. Hein. Ce sont des acariens, comme Laetitia l'a rappelé. Donc, normalement, des structures qui sont assez petites, mais là, les tiques, elles sont très grosses.
On les voit
d'abord,
bien.
On dit une tique et non pas un tique.
Oui.
Beaucoup de personnes se trompent.
Oui.
Hein, voilà, c'est donc bien une tique. Et ces acariens très particuliers, avec un corps un peu globuleux, hein, qui sont capables de gonfler, de se gorger de sang. Mais en fait, il y en a partout. C'est d'abord des parasites de la faune sauvage. Donc, on en retrouve beaucoup sur les petits rongeurs, en particulier les petits rongeurs qui sont dans les terriers. On en retrouve aussi beaucoup sur les oiseaux. On en retrouve aussi beaucoup sur les cervidés, les chevreuils, etc. Sont très très souvent parasités par ce type de parasites. Et puis, parfois, ils peuvent aussi, c'est un peu un accident, hein, mais ils peuvent aussi se nourrir sur un chien, sur un chat et sur un être humain.
Sur l'homme aussi, et sur l'homme. Et alors, elles se nourrissent de sang. Est-ce que la simple spoliation sanguine est dangereuse pour l'animal?
Alors, elles se nourrissent de sang, effectivement, et en plus, elles concentrent le sang. Alors ça, c'est assez extraordinaire, mais si on s'amusait à calculer le volume de la tique une fois gorgée, ben en fait, c'est qu'une petite estimation de la quantité de sang qui était absorbée, parce que la tique, elle est capable de concentrer le sang.
Ah oui.
Ah oui.
Pour faire simple, eh oui, elle absorbe le sang, elle garde ce qui lui plaît, et elle réinjecte l'eau qui est
dans le sang,
grande partie du sang, voilà, elle réinjecte l'eau dans l'organisme de l'animal. Donc
elle prend une spoliation. Elle prend les nutriments, quoi. Elle prend ce qui l'intéresse.
Elle prend les nutriments. Voilà. Donc il y a une spoliation importante. Alors ça, c'est une partie de leur pouvoir pathogène. Et puis l'autre partie de leur pouvoir pathogène, c'est que cette nutrition de sang là s'accompagne aussi de l'injection de tout un tas de choses, de salive, de sécrétion par la tique. Et dans ces substances qui sont injectées par la tique dans l'animal ou dans l'homme, eh ben, il peut y avoir des agents pathogènes, des micro-organismes qui sont pathogènes. Donc ça, c'est le deuxième volet du pouvoir pathogène des tiques. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de vectorisation. C'est le fait que les tiques sont des vecteurs d'agents pathogènes.
De maladies,
donc. Sont très connus.
Alors, la plus connue chez le chien, c'est la pyroplasmose. Hein. Je pense que tous les propriétaires de chiens sont au courant que cette maladie peut être transmise par la tique. Il y en a beaucoup d'autres, en fin de compte.
Oui, alors effectivement, ce qui est bien connu des propriétaires de chiens, c'est la pyroplasmose. La plupart des gens sont même capables de reconnaître la maladie, hein, parce que le chien qui est un peu patraque, qui présente la température, qui veut plus manger, qui ne court plus, qui est fatigué, et puis au bout de quelques jours, parfois même quelques heures, on voit que l'urine prend une couleur un peu marron. Bon, mais ça, c'est vraiment très très évocateur d'un problème de pyroplasmose. Okay. Il faut aller tout de suite consulter un vétérinaire. Les gens connaissent en général bien, mais il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres maladies qui peuvent être liées à des morsures de tiques. Et chez l'homme, la maladie qui est la plus emblématique et qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, c'est la maladie de Lyme.
Eh oui. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que... Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la maladie de Lyme chez l'homme. C'est un véritable fléau en France. On a même la ministre de la Santé qui a promis un futur plan Lyme. Mais la maladie de Lyme peut aussi toucher nos animaux.
Oui. Alors... La maladie de Lyme, c'est pas l'objet de notre discussion aujourd'hui, mais c'est un sujet éminemment polémique.
Oui.
Il y a beaucoup de choses qui sont dites, à la fois dans un sens, à la fois dans l'autre. Bon, voilà, il y a beaucoup de discussions, pour ne pas dire de disputes autour de l'importance de la maladie de Lyme chez l'homme. Bon, c'est un sujet, encore une fois, un peu compliqué.
Bon, on va se concentrer sur les animaux.
On va rester sur les animaux, c'est un peu plus simple, et en tout cas, moi, j'ai plus de légitimité à en parler. Alors, chez les animaux, chez le chien en particulier, ça a été étudié. Ce que je peux dire, c'est que la borréliose de Lyme, sans doute chez le chien, n'est pas quelque chose d'important. Contrairement à ce qui semble se passer chez l'homme, les chiens, en fait, ne développent pratiquement jamais la maladie.
D'accord.
Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas contaminés par le microbe. Hein. Les chiens sont exposés, ils ont beaucoup de tiques, et donc la tique qui transmet l'agent responsable de la maladie de Lyme, elle est aussi présente chez le chien, bien sûr. Donc les chiens sont exposés. On peut même se servir des chiens pour repérer des zones où le pathogène circule. C'est ce qui est fait aux États-Unis, par exemple. Le chien est une sorte de sentinelle. Il nous sert à mieux comprendre comment se passent les choses pour la maladie. Mais par contre, l'agent pathogène n'est responsable sans doute que dans très rares cas de signes cliniques chez le chien. Ça, c'est très mal connu, c'est très mal caractérisé, mais il n'y a pas par exemple la rougeur de la peau, hein, qui est l'érythème, hein, ce qu'on appelle l'érythème migrant, qui est caractéristique chez l'homme. Ouais, on l'a pas chez le chien, ou de façon sans doute très fugace, donc c'est quelque chose qui n'est pas observé. Sont décrits parfois des formes articulaires chez le chien. Bon. Et là encore, la preuve vraiment que ces formes articulaires sont liées à l'agent transmis par la tique, reste vraiment à démontrer. Et puis il y a aussi parfois des formes rénales particulièrement graves qui ont été décrites chez le chien. Mais franchement, ça reste vraiment anecdotique.
Oui, et c'est plutôt la pyroplasmose.
Et voilà, c'est la pyroplasmose qui reste le problème majeur. Et sur 95% des chiens qui sont contaminés par le germe et qui vont jamais faire de maladie de Lyme. Voilà.
D'accord. Et concernant le chat, on n'en parle jamais du chat et des tiques. Hein.
Oui, alors ça c'est effectivement un sujet qui est un peu oublié. Alors ça change un peu quand même, les gens se rendent compte maintenant que le chat, c'est un peu comme le chien, hein. À partir du moment où un chat sort, il est tout à fait capable d'être contaminé, d'être parasité par des tiques. Donc il y a des tiques chez le chat. Il y a certains chats, c'est comme ça, je peux pas vous dire pourquoi, mais qui attrapent plus souvent des tiques que d'autres.
Oui,
on n'est pas égaux, hein, mais c'est pareil pour l'homme. On n'est pas égaux devant les parasites. Et maintenant, ce qu'on sait pas très bien chez le chat, c'est l'importance vraiment de ces tiques. Elles doivent transmettre des choses, ça c'est sûr. Mais en France, pour l'instant, c'est pas très très clair. On sait pas trop si c'est dangereux ou pas.
Alors souvent, quand on voit des tiques sur son animal, son chat ou son chien, on fait souvent des manœuvres qu'il ne faut pas. Alors comment, que faire pour ôter les tiques de son animal et ce qu'il ne faut pas faire aussi?
Alors très simple, il ne faut pas agresser la tique.
Pourquoi?
Je l'ai dit, un des problèmes posés par la tique, c'est qu'elle transmette des choses. Et ces germes qui sont transmis, en fait, ils peuvent être transmis lorsqu'on va agresser la tique. Il y a une sorte de réflexe, un peu comme une sorte de régurgitation qui peut se produire à ce moment-là. Et quand on agresse la tique, quand on la retire de façon un peu trop brutale, il peut y avoir une sorte de précipitation du phénomène de transmission. Donc, en fait, il faut essayer d'y aller le plus délicatement possible.
On la caresse.
Faut pas chercher. Voilà, on la caresse, on lui parle gentiment. En tout cas, on ne l'agresse pas. On n'essaie pas de la brûler. Hein. Il y a des gens qui approchent une cigarette,
des choses comme ça.
De l'essence.
Voilà. Ouais, il y a des gens qui mettent de l'essence.
De l'éther.
Surtout pas l'éther.
Surtout pas. Et donc, absolument aucun produit, en fait. Il faut utiliser des petits systèmes qui ressemblent à des petits crochets qu'on retrouve chez son vétérinaire. Mm-hmm. Ça coûte vraiment moins d'un euro, ces petits systèmes-là, en plastique. On glisse cette espèce de petit crochet, ça fait comme une sorte de petite pince. On la glisse sous la partie antérieure de la tique, on tourne. Et normalement, quand on fait ça, on peut retirer la tique de façon très délicate, sans risquer cette espèce de régurgitation et sans risquer aussi de laisser les pièces buccales en fait de la tique dans la peau.
Ah oui.
Ça voilà. Peut être aussi un problème.
Le crochet anti-tique est vraiment indispensable dans la trousse de secours.
Et après, on l'élimine, Laetitia, la tique.
Après, on l'élimine.
Oui, voilà, bien sûr. Là, on peut la stresser.
on peut
la stresser après, mais quand elle n'est plus sur l'animal. Et bien sûr, il faut bien prévenir en traitant par des produits antiparasitaires son animal.
Tout à fait.
Voilà. Bon, très bien. Merci beaucoup.
Merci Jacques.
Merci à vous.
Merci. Voilà. Alors je rappelle que vous êtes professeur à l'École nationale vétérinaire d'Alfort au service parasitologie, mycologie et dermatologie. Merci.
Voilà. Vous savez tout sur la tique. On revient dans un instant avec Laetitia Barlerin.
On dit bien là.
Oui, la tique. Et on va parler maintenant d'un sujet dramatique, si je puis me permettre. Puisqu'on va parler des cuisses de grenouilles, mais de l'élevage des grenouilles qui se termine en cuisses. Et vous allez voir, c'est pas terrible. On en parle dans une minute. Le 32-16, animaux@rmc.fr pour nous joindre. À tout de suite.
RMC, 6h-8h. Vos animaux. RMC, 6h-8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Le retour de ce week-end des experts animaux. Merci d'être là. Avant de retrouver la météo, les infos de 7h30, de recevoir le vétérinaire star du zoo de la Flèche dans la Sarthe. C'est lui que nous voyons dans une saison au zoo, qui attaque sa 7e saison sur France 4. On va en parler dans quelques instants. Et avant de retrouver aussi Julie Ferrier, Laetitia, on va s'intéresser à notre petit déjeuner. Que diriez-vous de tremper dans votre café quelques petites cuisses de grenouille, Laetitia?
À la persillade, bien sûr. Et nous sommes avec Anne-Marie Holler, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle et qui connaît bien la provenance de des cuisses de grenouille qu'on peut retrouver dans nos assiettes. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour,
bienvenue. Alors, les Français sont les plus grands consommateurs de cuisses de grenouille en Europe et les deuxièmes au monde après les États-Unis. Et pourtant, j'ai bien vérifié, il n'y a qu'un seul élevage en France. Alors, d'où viennent les grenouilles que l'on retrouve dans nos assiettes?
En fait, la plus grande partie des grenouilles, ça vient d'Indonésie.
Oui.
Il y a aussi des grenouilles qui viennent du Vietnam ou de Turquie, mais les gros, ça veut dire les 5000 tonnes, c'est vraiment la plus grande partie vient de l'Indonésie et c'est importé surgelé.
Et alors ces grenouilles ont été élevées ou est-ce qu'elles ont été prélevées dans la nature?
Toutes ces grenouilles d'Indonésie et de Turquie sont prélevées dans la nature. Il y a des élevages au Vietnam, mais pas en Indonésie.
Ça veut dire, alors attendez, parce qu'en France, le prélèvement dans la nature des grenouilles est interdit.
Bah oui, c'est pour ça. On a interdit ça très vite après qu'on a développé les surgelés parce qu'on s'est rendu compte qu'on vide la nature de les grenouilles et on s'est tourné vers des importateurs des pays tropicaux. D'abord, c'était l'Inde qui a fermé son export quand ils ont vu les dégâts que ça faisait. Et depuis fin des années 80, c'est l'Indonésie l'importateur majeur en France.
Donc ça veut dire que, alors j'ai vu qu'il y avait 5000 tonnes qui étaient importées, de cuisses hein, seulement, de grenouilles qui étaient importées d'Indonésie chaque année. C'est énorme.
Chaque année, oui. Et c'est 5000 tonnes de cuisses de grenouilles. Ça veut dire, en fait, ça fait, enfin, pendu, c'est à peu près la moitié de la grenouille, le reste est jeté.
Oui.
Et ça correspond à peu près 100 millions de grenouilles prélevées. C'est un peu selon la taille, un peu plus, un peu moins.
100 millions.
C'est énorme.
C'est énorme.
Bien sûr, c'est énorme.
Alors, cerise sur le gâteau quand même, comme on dit, vous avez analysé des cuisses de grenouilles surgelées qui venaient d'Indonésie, et là, stupeur.
C'était pas des grenouilles.
Si, c'était des grenouilles, mais c'était pas les grenouilles qui étaient marquées sur le sachet, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, c'est il y a un nom latin sur le sachet. On s'est dit, on va tester, parce que comme c'est une espèce quand même qui devient rare et qui vit dans les forêts, on s'est dit, est-ce que ça peut vraiment être cette espèce-là? Et en fait, on avait séquencé, on a étudié de l'ADN et on a trouvé que sur les environ 200 grenouilles qu'on a étudiées, il y avait une seule qui était bien, c'est ce qui était sur l'étiquette. Ça veut dire 99%, c'était deux autres espèces. Et pas celle qui était sur l'étiquette.
Mais de toute façon, le consommateur ne voit pas la différence.
Non.
Non, mais surtout, après, vous avez dit ail et persil. Non, mais si vous apparemment, localement, les gens font la différence. Et ils préfèrent celle qui est sur l'étiquette et pas celle qui est dans le sachet. Et celle qui est sur l'étiquette est plus chère. Ça veut dire probablement l'importateur paye le prix cher pour la grenouille moins chère.
Est-ce que les douanes sont au courant? Parce que c'est de la tromperie sur marchandise, là.
Oui, c'est de la tromperie, l'étiquetage, je crois, comme malgré les efforts des associations de défense de l'environnement, ces grenouilles ne sont pas sur les listes citées. C'est tout, l'importateur, je pense qu'il n'est pas obligé de faire l'étiquetage.
Voilà, c'est ça.
Alors, dans le fond, donc, c'est plus une question de principe que
bah oui.
Bon,
oui,
égal. En fait, mais c'est pas la même. Oui, mais j'espère bien que ça va réveiller les associations de défense de l'environnement, les douanes et les importateurs.
Si on a bien compris, il n'y a rien d'illégal dans tout ça, que ce soit de la part des éleveurs ou des importateurs.
Il n'y a pas d'éleveurs.
Il y a un flou juridique.
Oui, je pense qu'il y a un flou juridique et l'Europe, la commission qui s'occupe de la CITES, elle n'a pas montré beaucoup d'intérêt quand on a essayé de mettre ce sujet sur... l'impact énorme que ça a sur l'environnement. Et en fait, qu'on fait l'exportation de problèmes environnementaux dans un pays du Sud.
Mais en plus, on sait qu'au niveau mondial, les populations de batraciens, de grenouilles diminuent et sont en danger. Et là, on importe en France 100 millions de grenouilles prélevées dans la nature en Indonésie. C'est quand même un problème. Est-ce qu'il y a des études pour savoir si ces grenouilles sont en voie de disparition en Indonésie?
Il y a des collègues indonésiens mais qui ont fait des études chez eux et qui ont constaté une raréfaction. Mais en fait, c'est ça qu'on voudrait faire, c'est des études en collaboration avec eux, plus poussées, avec des études génétiques pour voir un peu l'évolution de ces populations.
Quel conseil donneriez-vous à des abatteurs de cuisses de grenouilles? Il faut les acheter où alors?
Le problème, c'est que si on achète, il faudra quand même faire des études pour voir si on est dans un truc qui est pérenne, enfin dans un système qui s'entretient. Ça veut dire qu'il faudra quand même qu'il y ait des études sur ces populations et peut-être quand même essayer de développer des élevages. On appelle ça farming. Ça veut dire qu'on vérifie que ces populations peuvent se reproduire, qu'ils grandissent, etc., et qu'ils peuvent se maintenir. Le prélèvement correspond à un maintien.
Merci Anne-Marie.
Merci Anne-Marie. Merci et on
beaucoup.
Peut aussi décider de ne pas en manger.
Ça, c'est... Ah oui, après ça c'est un autre débat. Hein.
Oui.
Mais c'est vrai que la France est un pays où on aime beaucoup les cuisses de bœuf.
Oui, mais il n'y a qu'un seul élevage en France, c'est incroyable. Et reste, c'est prélevé dans la nature en Indonésie.
Bon, Laetitia, on revient dans un instant. On va tremper la cuisse de grenouille dans le café comme promis.
Ah non.
Et on revient après la météo, les infos, à tout de suite.
RMC 6h-8h, vos animaux.
Attention Laetitia Barlerin, une petite question.
Flash.
En moins de 2 minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Mickaël qu'on a reçue par mail animaux@rmc.fr. J'emménage dans une maison avec jardin, nous dit Mickaël. Conseillez-vous l'usage de la chatière pour mon chat de 6 ans? Il a toujours vécu en appartement avec balcon, alors il aime beaucoup sortir.
Alors d'abord, dans un premier temps, il ne devra pas sortir le chat. Ben non, parce que qu'est-ce qu'il va faire? Si on laisse sortir un chat qui est arrivé dans une nouvelle maison, il va sortir pour aller chercher sa maison. Donc il peut partir. Donc il faut d'abord qu'il s'imprègne de votre maison. Donc vous le mettez chez vous. Pendant un mois, il ne sort pas, même s'il aime sortir, comme la plupart des chats. Au bout d'un mois, oui, vous pouvez, pourquoi pas, mettre en place une chatière, tout en sachant que dans un premier temps, il faudra qu'elle soit que dans un sens, c'est-à-dire de dehors à dedans.
D'accord.
Comme ça, vous allez bien gérer ses allées et venues, parce que sinon, il fera ce qu'il veut. Mmh. Et puis, très important aussi, si vous voulez le faire sortir, il faut qu'il soit stérilisé, identifié, vacciné. Et il faut vérifier la sécurité autour du jardin. Parce que s'il y a une nationale juste à côté de chez vous, bah, vaut mieux pas qu'ils sortent, ou alors vaut mieux qu'ils sortent dans un jardin sécurisé,
évidemment.
Bien sûr.
Mais sécurisé, c'est compliqué pour un chat, parce que c'est vrai que ça grimpe un peu partout. Hein.
Alors, il y a des clôtures, mm-hmm, avec le haut de la clôture qui est penché vers l'intérieur.
Ouais, donc en fait, le chat, quand il arrive en haut,
voilà,
il peut pas aller de l'autre côté, en fait.
Exactement, c'est des clôtures de plus de 2 mètres, hein, mais ça permet de sécuriser.
Mais c'est esthétique, ça va ?
Oui, bah, ça va, c'est pas... Mais on veut sécuriser, il y a beaucoup de chats qui, quand même, meurent sous les roues des voitures,
ouais,
donc c'est bien de les sécuriser. Et puis, très important aussi pour un chat qui sort, tous les soirs, le chat rentre à la maison.
Voilà.
Même s'il veut rester dehors pour chasser les souris.
Donc, il faut le faire rentrer.
Tous les soirs, il doit dormir à la maison. Et ça, c'est très important, Michael. C'est pour ça que la chatière, il faut bien la surveiller quand même.
32-16 pour toutes vos questions animaux. À tout de suite.
RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera.
Merci d'être là, le week-end des experts. Les animaux, comme chaque dimanche, nous sommes là avec Laetitia Barlerin. Invitée exceptionnelle tout à l'heure, Laetitia, la comédienne Julie Ferrier sera avec nous.
Oui, c'est une humoriste qui fait un spectacle en ce moment où elle fait intervenir qui ? Sa chienne.
Qui s'appelle Tam.
Dame.
Voilà. Et on va la découvrir dans un instant, cette chienne. Elle va nous la présenter et puis elle va nous expliquer aussi quelles interactions elle peut avoir avec cette chienne sur scène.
Eh oui.
Ça sera dans quelques minutes. Mais dans l'immédiat, on va maintenant se plonger dans le succès d'une émission que vous connaissez peut-être. Écoutez. Dans cette émission, pour vous donner quelques indices, il y a des vétérinaires, des soigneurs et des animaux.
Voilà. Et un zoo.
Une saison au zoo. L'émission star de France 4. On a le plaisir d'avoir le docteur Cyril Hue avec nous.
Voilà, qui est le vétérinaire star du zoo de la Flèche, où est tournée cette série documentaire depuis 3 ans
et
maintenant.
Cartonne.
Et qui cartonne. Cyril, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Je sais pas si vous nous entendez bien, j'espère.
Oui, très bien.
Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas une saison au zoo, parce qu'il y en a quand même, hein, c'est une série qui suit le quotidien des équipes du zoo de la Flèche, où vous êtes vétérinaire, et l'émission n'arrête pas de battre des records. On en est à plus de 700 000 téléspectateurs sur France 4, si bien qu'une 7e saison va débuter cette semaine avec un prime time, comme on dit, le 4, c'est le à 20h55, hein, c'est vraiment, c'est un grand succès pour la saison au zoo. Alors pourquoi, d'après vous, cette émission a un tel succès ?
C'est toujours difficile de répondre à ce type de questions parce que on n'est pas dans la tête des téléspectateurs. La seule chose qui pour nous peut nous donner des indications, c'est le retour qu'on a lorsque les gens viennent nous rendre visite au parc ou par les témoignages. Notamment, on reçoit beaucoup de courriers au niveau du parc,
mmh,
qui semble en fait toucher énormément les gens. C'est dans un premier temps l'implication et l'authenticité de l'équipe animalière et de l'équipe du zoo en général pour le bien-être des animaux du parc, d'une part, et puis pour la conservation des espèces menacées, d'autre part. Donc déjà, s'il y a un message de fond qui est important pour une émission, cette émission animalière, ce qui est évidemment pour nous extrêmement important. Et puis, je crois aussi que les gens, au fil des saisons, se sont un peu appropriés le parc et en fait nous ont fait rentrer chez eux et ont instauré en fait la saison au zoo comme un rendez-vous quotidien.
Oui.
Une émission qu'on va suivre tous les jours pour rencontrer à nouveau les équipes des soigneurs, donc qu'ils connaissent tous par cœur, mais aussi évidemment tous les animaux, et suivre leur vie au quotidien. Et en fait, c'est un moment aussi partagé dans les maisons, a priori, c'est un moment familial. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants tout seuls qui regardent cette émission, c'est vraiment un moment partagé, où on va partager des moments de bonheur, des moments un petit peu plus difficiles, parce que c'est le quotidien du parc ici qui est retracé, voilà, sans tricherie, avec toutes ces difficultés et tous les moments plus joyeux qu'on peut traverser.
Ben c'est vrai que bon, moi j'écoute beaucoup les enfants qui adorent cette émission. Ils s'attachent beaucoup aux animaux, mais aussi on va dire aux personnages, parce que on a presque l'impression que c'est une série fiction. Et d'ailleurs, vous êtes une des stars quand même de l'émission.
Ah, oui.
Comment vivez-vous cette notoriété inattendue ? Est-ce que vous signez des autographes ?
Oui, on signe des autographes. On signe des autographes sur le parc, mais aussi dans le cadre de notre vie privée, de nos déplacements, de nos vacances, quand on va faire nos courses. Les gens nous demandent des photos, des autographes. Alors effectivement, pour nous, c'est toujours perturbant parce que l'émission, c'est quand même avant tout une émission qui filme des professionnels.
Oui.
Donc parfois, on a des questions un peu farfelues. Les gens nous disent, mais vous avez une équipe d'acteurs, vous êtes payé pour ça. Enfin, voilà.
Bah oui, parce que c'est scénarisé quelque part. On a l'impression que c'est presque pas vrai.
Ben ouais, je sais bien. On nous demande est-ce que c'est écrit à l'avance, est-ce que voilà, vous avez deux équipes, une équipe de vrais soigneurs et une équipe qui passe à la télé. Enfin, on a plein de questions un peu farfelues de cet ordre. Et non, tout ça c'est la vraie vie quoi. C'est vraiment nous, c'est notre travail. Et donc
c'est la zoo réalité en fait, Cyril.
C'est ça. Alors, en fait, il y a un terme pour ça. Ils appellent ça des docu-réalités.
Ah oui.
C'est-à-dire que voilà, c'est le principe d'une télé-réalité dans sa façon de présenter l'émission. Voilà, c'est les codes de la télé-réalité, mais sur un fond documentaire. Donc voilà, j'ai appris ce terme-là. Et oui, cette starisation, c'est toujours un peu perturbant parce que nous, on n'est pas préparé pour ça. On n'a pas choisi ce métier évidemment pour une exposition médiatique, même si elle est effectivement positive et plutôt. C'est plutôt du feel good, mais voilà, c'est toujours un peu perturbant évidemment d'être arrêté sur le cadre de son travail ou dans sa vie privée par des gens qui sont voilà tout sourire, qui nous demandent des autographes, qui veulent faire des photos. Voilà, c'est toujours effectivement un peu perturbant.
Vous devez faire beaucoup de selfies, hein. Vous êtes le vétérinaire le plus sur les selfies au monde. Hein.
Je sais pas, mais effectivement, on en fait beaucoup. Alors évidemment, c'est souvent bienveillant, hein, les demandes
oui.
des personnes, et beaucoup, beaucoup d'enfants, effectivement. Donc, à chaque fois, on prend beaucoup d'attention, on prend de notre temps pour accéder à ces demandes-là, parce qu'évidemment, pour les enfants, c'est pour eux souvent un rêve qui s'accomplit quand ils ont vu les équipes et les animaux du parc à la télé qui viennent enfin nous rendre visite ou qui nous croisent. Pour eux, voilà, c'est une belle rencontre. Donc on se doit évidemment de leur accorder du temps et de l'attention, de répondre à leurs questions. Et voilà, parce qu'en plus, comme on essaye de véhiculer des
messages,
valeurs plutôt
positives,
oui, voilà,
il y a beaucoup de messages dans ce documentaire,
hein,
sur protection des animaux. Alors, j'ai l'impression même que ça a changé un petit peu l'image des zoos, ce qui est très bien, puisque pour beaucoup de personnes, les zoos, c'est des prisons pour animaux, et vous véhiculez justement une autre image du zoo sur l'utilité des zoos.
Oui, c'est effectivement, c'est quelque chose aussi qu'on nous dit souvent. Soit on nous rapporte des propos du style on ne savait pas que vous faisiez autant pour les animaux du parc, on ne savait pas tout ce que vous faisiez en coulisses, les enrichissements, les trainings, l'implication du personnel pour bien-être animal. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement, ben, vous m'avez réconcilié avec les parcs zoologiques parce que je ne pensais pas que les parcs étaient devenus des ambassades animales, que vous préoccupiez tant de la conservation de la biodiversité et du bien-être de vos pensionnaires. Donc tant mieux, voilà, on est content que ça bénéficie aussi à l'ensemble de la profession, parce qu'effectivement aujourd'hui nous avons un rôle important en termes de pédagogie et de sensibilisation, et ce qu'on essaye évidemment de véhiculer aussi par la télévision.
C'est facile d'avoir des caméras qui sont toujours en train de vous filmer ?
C'est facile dans le sens où il y a une réelle complicité qui s'est instaurée entre les deux équipes, l'équipe de tournage et l'équipe du zoo,
oui.
Des liens d'amitié et des liens de confiance. Et c'est pour ça aussi que l'émission dure. C'est-à-dire que si on n'avait pas cette confiance réciproque, cet intérêt aussi mutuel d'un métier pour l'autre, ça n'aurait pas pu marcher sur la longueur. Parce qu'à un moment donné, on aurait été fatigué, on n'aurait plus envie de donner de nous, en fait, pour cette émission. Et en fait, c'est une des clés, je pense, de la réussite dans la durée de cette émission, c'est cette complicité et cette confiance, j'ai envie de dire aveugle, qu'il y a entre voilà, l'équipe de tournage et de montage, évidemment, et les équipes du parc.
Et parce que le montage, là, est très important, bien évidemment. J'avais une petite question. Vous tournez toute l'année, Cyril, ou est-ce qu'il y a des saisons qui sont plus propices au tournage ?
Alors pendant 3 ans, on a tourné 2 fois par an, 2 saisons par an, une première fin d'hiver et printemps et la seconde pendant l'été. Cette année, on va changer, on va faire qu'une seule saison qui a débuté il y a environ 3 semaines et qui va s'achever dans 2 mois et demi. Donc ça sera sur 3 mois ce tournage, avec effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure en préambule, la première diffusion la semaine prochaine. Donc pendant que les téléspectateurs regarderont les débuts de la nouvelle saison, nous on sera toujours en tournage sur le parc.
Ah oui, d'accord, donc il faut un montage très rapide, quoi.
Ah oui. Oui,
juste après le tournage, en fait.
Ah oui, ouais. Ils sont en flux tendu. Alors, bien entendu, le succès de la saison au zoo, c'est aussi le succès du zoo de la Flèche, hein, puisque bien sûr, on montre ce zoo. Quelles sont les nouveautés pour 2017 pour ceux qui viennent dans la région, dans la Sarthe, et qui aimeraient vous, alors j'allais dire vous rencontrer? Non, visiter le zoo.
Voilà, évidemment, nous, ce qu'on souhaite avant tout, c'est que les gens viennent pour les animaux. Donc cette année, pour la première fois de son histoire, le parc va faire une extension sur environ 4 hectares, une extension qui sera complètement consacrée à l'Asie, avec comme animal phare le rhinocéros indien, qui sera hébergé sur une plaine d'environ 1 hectare et demi, et plusieurs autres espèces du continent asiatique et un petit peu d'Océanie aussi, qui vont en fait faire une zone cohérente, cohérente sur la sur le Pacifique, Océan Indien, donc Asie et Océanie. Et donc, ce sera les rhinos indiens avec pas mal d'herbivores du sous-continent indien, mais aussi les tigres de Sumatra, les chats pêcheurs, des calaos, donc des grands oiseaux asiatiques, une grande volière aussi avec une centaine de petits perroquets d'Océanie, enfin des nouvelles, une nouvelle espèce de loutre, enfin beaucoup d'espèces.
Bon, super, ben ça donne envie en tout cas. Donc rendez-vous soit au zoo de la Flèche dans la Sarthe, soit mardi 4 avril, donc mardi là qui arrive, à 20h55 pour un prime spécial une saison au zoo, et puis après tous les jours à partir de mercredi, du lundi au vendredi à 19h25, une saison au zoo, saison 7.
Merci Cyril.
Sur France 4,
merci
bien sûr.
À bientôt.
Merci Cyril,
à très bientôt, merci, au revoir.
On va rester dans le monde des médias. Avec une comédienne, alors qu'on voit de temps en temps la télé, mais qu'on peut voir encore plus au théâtre en ce moment, c'est Julie Ferrier qui sera avec nous au téléphone dans un instant. À tout de suite, c'est RMC.
Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos Animaux sur RMC. RMC, 6h-8h, Vos Animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Le retour et la fin de ce week-end des experts. Merci d'être là, en tout cas pour les animaux, parce que bientôt, il sera 8h et après la météo et les infos de 8h, c'est Jean-Luc Moreau qui me rejoindra. 2 heures dédiées à l'automobile, donc dans quelques minutes. Laetitia, pour terminer, nous avons le plaisir de recevoir Julie Ferrier.
Julie Ferrier qui est humoriste et actuellement au Théâtre de la Madeleine à Paris pour son tout nouveau spectacle « À ma place, vous feriez quoi ?» Julie, bonjour. Bonjour, bienvenue.
Bonjour Julie.
Merci.
Bonjour François.
Bonjour Julie, merci d'être avec nous. Alors, vous savez, on a découvert votre amour des animaux et en particulier des chiens à la cérémonie des Césars 2012 où vous interprétiez une certaine Sarah van der Bus, une dresseuse qui militait pour les animaux acteurs. Écoutez.
L'animal, lui aussi, il doit avoir sa formation. Lui aussi, il doit avoir ses répétitions. L'animal. Lui aussi, il a ses 12 heures de tournage par jour, l'animal. Alors pourquoi qu'il n'aurait pas le droit à son petit César aussi, lui, l'animal? Je suis dresseuse depuis plus de 20 ans. J'ai plus de 120 films à mon actif. Je ne demande même pas le César pour les dresseurs, mais juste pour l'animal.
et il n'y a
cette
toujours
dresseuse,
pas
vraiment, elle voulait vraiment revendiquer le droit des animaux.
J'ai entendu parce que je l'ai mis en haut-parleur. À chaque fois, c'est marrant, c'est de voir sa réaction.
C'est vrai.
elle est très. Ah bah quand elle se regardait à la télé quand on le visionnait après les Césars en famille et tout, on rigolait.
C'est marrant. Bon, en tout cas, depuis il n'y a pas de César pour les animaux. Hein, vous avez vu. Hein.
Ça n'en a déjà pas pour le maquillage. Alors.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. En tout cas, voilà. Vous avez essayé, c'est bien. En tout cas, vous faites vraiment. Vous avez fait au César, mais aussi dans vos spectacles, sur scène, un numéro digne des meilleurs dresseurs de chiens, quand même. Hein. Votre chienne qui s'appelle je ne sais pas s'il y a beaucoup de propriétaires de chiens qui font ce que vous faites avec votre chienne, point de vue numéro 1. Hein. Elle est arrivée comment dans votre vie, votre chienne? Elle s'appelle Dame, c'est ça?
Ouais, elle s'appelle Tamagine de son vrai nom et Dame c'est son nom de scène. J'ai voulu l'appeler Dame parce que bon, comme elle s'appelle Tamagine, on l'appelait beaucoup Dame parce qu'on la prend souvent pour un mâle. Alors à chaque fois je dis non, c'est une femelle. Et puis les gens qui ont peu d'égard, enfin peu d'intérêt pour les chiens. En fait, un chien pour eux c'est il y a des personnes hein, comme ça, femelle ou mâle, c'est un chien quoi.
Oui, c'est sûr. Oui,
je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais...
C'est une chienne, on dit « il », alors qu'on dit « elle » pour une chienne, quoi. Voilà, tout simplement.
Bah oui, toujours cet éternel... Enfin bon, c'est le problème des sexes. <Ça parie. rire>
Et donc, bon, comment elle est arrivée dans votre vie, Tam?
Bah, elle est arrivée, je l'attendais depuis 30 ans. Et en fait, ça s'est fait. C'est vraiment une très, très belle histoire parce que l'année avant de la voir, je regardais les bouquins. J'étais partie sur un braque hongrois, après sur un braque de Weimar. Après, j'avais bien aimé le Limon, le setter irlandais, le setter anglais,
oui,
etc. Et puis, je suis en vacances dans le Vercors, dans mon fief familial, c'est-à-dire dans les Alpes. Et je vois une annonce au casino, parce que là-bas, il y a beaucoup de chiens. Une chienne de ferme équestre, une chienne qui vient d'avoir une portée, d'un chiot. Mélange labrador, berger allemand. Bon. Et on y va avec ma famille dans le village de Roissard. Et on tombe sur effectivement toute la tripotée de chiots, et puis voilà, ça s'est fait comme ça, ça s'est fait assez vite, hein, que vous savez comment c'est quand on va chercher un chiot comme ça, mais on a pris le temps en même temps, c'est-à-dire que on l'a prise, elle avait je sais pas un mois et demi, on l'a emmenée dans la maison de vacances, on a vu un peu comment elle était, on l'a déjà pour la choisir, ça a pris 2 heures.
Oui.
Je savais comment choisir un chiot. C'est-à-dire, il faut le prendre pas trop dominant, mais pas trop dominé non plus.
Oui, ça, c'est des idées. Hein.
Ah ouais, ça marche
pas.
C'est
pas
vrai.
En tant que vétérinaire. Puis un mois et demi, il n'y a pas de chiot dominant ou dominé. Hein. Puis un mois et demi, c'est un peu tôt quand même. Hein.
Bon, je trouve que quand même, pour après, parce qu'après, ça a été toute une dynastie. Hein, ça va être très long. Hein, j'espère que vous avez du temps à me consacrer. Parce que si je vous raconte vraiment l'histoire, la genèse de Dame... Bon ben en fait après je l'ai adoptée, elle est venue à mes côtés à 2 mois et demi, hein, et puis j'ai commencé le dressage à 4 mois,
oui.
Et puis la première année très assidue, et puis de moins en moins, et puis là dans le spectacle à la Madeleine, elle est encore sur scène avec moi, mais
oui,
je l'ai intégrée différemment, et elle fait des nouveaux numéros. Enfin, pas des nouveaux numéros, mais là, il y a un nouveau truc qu'elle fait qu'elle ne faisait pas, évidemment, au César.
Et Julie, vous n'avez qu'un animal de compagnie ?
Non, j'en ai un deuxième, mais j'ai pas le droit de dire ce que c'est.
C'est pas vrai ?
Pourquoi ?
Bah, venez voir le spectacle.
Ah ! Ah bah alors, oui, moi je sais.
D'accord.
Ah mais c'est plus petit, mais c'est plus surprenant.
Il est bébé, il est même pas encore dressé. Alors,
oui, j'imagine. Mais quand il sera adulte, bonjour, hein.
Non, parce qu'il sera comme Tam, c'est un nain. Mais j'arrive déjà à le faire asseoir avec la main, et avec du pain de mie, j'arrive à le faire asseoir. Bon, il est facile, il est bien celui-là. C'est un mâle pour le coup. Alors, il faut pas qu'on en parle, ça sert à rien.
Bon, bah,
il faut aller voir le spectacle
pour voir cet animal mystère. Comment vous avez appris, vous avez suivi un dresseur
les
pour
bouquins.
Lui des bouquins. C'est-à-dire que vous avez appris dans les bouquins à dresser votre chien.
Ouais.
C'est marrant, ça. Hein,
oui, les bouquins. Et entre-temps, j'ai revu quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui est un grand dresseur, qui s'appelle Laurent Jahan, qui est basé en Vendée. Il est assez connu parce qu'il mélange le dressage et la comédie. Il fait des trucs très drôles avec les ânes, les chevaux. Il est très connu. Hein.
Mmh.
Et donc, on s'est retrouvés 20 ans après. Il a vu Dame. Je l'ai suivi en tournée en Allemagne avec Appassionata et spectacle de chevaux. Et là, pour mon nouvel animal, je pense qu'il va m'aider, lui, parce que c'est pas si facile.
Dans les livres, on n'apprend pas ça, hein, c'est sûr.
Non, mais Tam, surtout, elle était facile au dressage. Le dernier coup que je lui ai appris qu'elle fait dans le spectacle, ça n'a rien à voir. J'étais en tournage avec Charlotte Lebon, qui adore les chiens, et qui me disait, elle est super ta chienne, mais nous, on lui a appris ce truc-là avec mes parents quand j'étais enfant. Et j'ai dit, c'est super, et je lui ai appris dans la foulée, c'est un des derniers trucs qu'elle a appris.
Mais alors,
ça se fait comme ça aussi.
Il y a une chose.
Une fois que le chien ou la chienne, l'animal est dressé, c'est comme s'il avait passé, moi je trouve, il a compris le principe. Donc il est.
Mais est-ce que, Julie, est-ce que tous les soirs il a envie ? Elle a envie, pardon.
Elle a envie, oui.
Non. Là, elle commence déjà à en avoir marre.
Mais ça doit être compliqué. Ça doit être compliqué pour vous, non, de lui faire faire.
Bah là, hier, par exemple, elle m'a. Il y a un truc qu'elle fait moins bien, mais il suffit de recadrer un peu et de lui faire comprendre qu'il faut le faire. En plus, elle a une belle récompense à la fin. Bon.
D'accord.
Est-ce que les applaudissements, elle est sensible aux applaudissements ?
Oui, oui, ça aussi, je lui ai appris. Ce bruit, cette façon de faire l'humain, c'est pour la remercier, la féliciter. Donc, elle est consciente que quand ça applaudit, c'est que c'est plutôt positif pour elle et pour ce qu'elle vient de faire.
Alors, Julie, un truc que je n'ai pas compris, c'est dans quelle langue vous lui parlez? Est-ce que c'est de l'anglais, de l'allemand, du... je ne sais pas.
Oui, oui, c'est non, c'est une langue inventée. Alors, j'appelle ça la langue de chien, mais non, c'est une langue inventée, en fait.
Et pourquoi?
Mais parce que quand je l'adressais, j'en avais marre de dire panier, assis, bouger, pas bouger. Je trouvais ça débile. Parce que quand on dresse, quand même, on le répète plusieurs fois, quoi.
Oui.
Quand je dis plusieurs fois, c'est 50 fois par jour, quoi.
Mmh. Et donc,
forme de training.
Et en traduction, donc, ça fait quoi?
Bah, il y a patcher, c'est pas bouger. Skiz, assise. Choups, coucher.
Choups.
Patina, viens ici.
D'accord.
Voilà, il y a plein de petits mots comme ça. Et après, il y a des... Elle comprend aussi l'anglais.
Mmh.
J'ai un peu... C'est vrai que j'ai mélangé un peu des trucs, ouais.
En tout cas, on voit une belle complicité entre elle et vous sur la scène du théâtre, parce qu'elle est fixée sur vous, même si à un moment, elle doit regarder
dans la vie,
d'autres...
Ouais, mais elle est fixée sur la... Elle est fixée sur la carotte, surtout que j'ai dans la manche, qu'elle a compris comme elle est très intelligente. Et elle sait qu'elle va avoir sa carotte au bout du compte, parce que le nouveau truc dans le spectacle, c'est ça, c'est qu'elle dévore une carotte sur scène.
Oui.
C'est quand même rare pour un chien.
C'est vrai, c'est rare que les chiens aiment ça.
Mais on est très complice dans la vie aussi. On est très complice dans la vie aussi, très très complice.
Julie, merci beaucoup.
Des fois, j'ai l'impression qu'elle voudrait être moi.
Alors ça, ça sera peut-être le cas dans un prochain spectacle.
Elle vous vole presque.
On pourra peut-être inverser les rôles.
Voilà, elle vous vole presque la vedette, hein, Julie. Hein, faut le dire. Quand
elle,
même.
Elle est dans le film. Actuellement, il y a un film dans lequel je joue qui s'appelle Chacun sa vie.
Oui.
Le film de Claude Lelouch qui est à l'affiche en ce moment au cinéma.
Oui.
Et elle est dedans. Elle est avec moi, elle est à mes côtés, on la voit. Elle est la chienne de mon. Parce que je fais deux personnages dans le film. Donc elle fait la chienne de l'assesseur, de mon rôle d'assesseur, de Nathalie.
Julie Ferrier, donc tout. Est-ce que c'est tous les soirs? Non, c'est pas tous les soirs. C'est du mardi au samedi à 21h. D'ailleurs, merci d'avoir été avec nous ce matin parce que vous avez joué hier soir et vous êtes au Théâtre de la Madeleine à Paris jusqu'au 29 avril. Merci beaucoup, Julie.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Et une caresse.
Plaisir.
Une caresse à dame.
Bien sûr.
Oui, un bisou même. Elle fait des bisous sur la langue.
Ou une carotte. Allez, une carotte.
Bisous sur la langue. Allez, elle est là. Elle arrive longtemps. Elle vient de voir.
À bientôt, Julie. Merci.
Merci, Julie. Merci.
Laetitia, on se retrouve dimanche prochain. On sera là, 6h-8h sur AMC.
Je vous souhaite un très très bon dimanche à tous. Amusez-vous bien et je vous souhaite bien sûr, je vous dis à la semaine prochaine. Dimanche prochain.
Et profitez bien de ce jour férié aussi, qui est dédié à Julie, mais à tout le monde aussi. Donc, en profitez. Et dans un instant, c'est Jean-Luc Moreau qui me rejoint comme tous les dimanches pour notre rendez-vous auto. A tout de suite après la météo et les infos.
RMC, 6h-8h. Vos animaux.